Je lirai donc ce matin le chapitre 9 de l'évangile de Jean, la guérison de l'aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né, aveugle ? Jésus répondit : Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », un nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui répondirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais ». Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Et il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous vous aussi devenir ses disciples ?» Alors ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous fais la leçon ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit « Je crois, Seigneur », et il l'adora. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent : « Nous aussi, sommes-nous aveugles ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites : « Nous voyons », c'est pour cela que votre péché subsiste. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique numéro 184, « Demeure par ta grâce », les strophes 1, 2 et 3 du cantique 184. Je vous invite à vous lever. Grâce te soit rendue pour ta parole, ô Dieu, notre Père. Cette parole où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, inquiètes, connaissant souvent de grandes joies, mais souvent aussi de grandes épreuves, de corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentés par tant de choses diverses dans le tumulte du monde qui nous entoure. Nous te bénissons de nous permettre ce matin de nous arrêter pour écouter ce que tu as à nous dire. Que l'écoute et la méditation de ta parole mettent véritablement dans nos cœurs une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin pendant les jours qui viennent, et qu'elle nous rende capables d'être dans le monde de meilleurs annonciateurs de ton amour par notre service et par notre témoignage. Je suis la lumière du monde. Qui peut donc oser dire cela ? Un illuminé, un gourou, un leader charismatique, en présence d'un auditoire de fanatiques subjugués par un miracle destiné à leur en mettre plein les yeux. Je suis la lumière du monde. Il faut bien reconnaître qu'il y a un je ne sais quoi d'inquiétant dans une telle revendication de la part de Jésus de Nazareth. D'autant qu'elle est formulée à deux reprises dans le quatrième évangile, dans ce chapitre 9 que je viens de lire, à l'occasion de la guérison de l'aveugle né, et au chapitre 8, après que Jésus a renvoyé la femme adultère. Il se trouve que nous sommes sans doute tous, peu ou prou, des héritiers de ces lumières qu'Emmanuel Kant, dans un opuscule célèbre, définissait comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Cet état de tutelle, ajoutait-il, est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute, lorsqu'elle résulte non pas d'une insuffisance de l'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Oui. Et Kant ajoutait, aie le courage de te servir de ton propre entendement, telle est la devise des Lumières. Alors si les Lumières, c'est la mise en œuvre autonome, responsable, audacieuse même, de la raison, comment recevoir, comment accepter cette prétention du Christ, un homme comme les autres, à être la lumière du monde. Si nous pensons qu'il est de notre responsabilité d'éclairer toute chose à la lumière de la raison, comment pourrions-nous admettre qu'un être humain puisse revendiquer d'être la lumière du monde ? Oui, comment confesser Jésus-Christ et en même temps protester de notre attachement à la liberté de chercher, la liberté de comprendre, de penser, voire même de critiquer ou de remettre les choses en cause de manière radicale. Il se trouve que dans le quatrième évangile, à plusieurs reprises, Jésus emploie cette formule « Je suis le pain de vie, le bon berger, la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais chaque fois que Jésus parle de la sorte, plutôt que de se décerner un titre, il se définit lui-même dans une relation. Car aussitôt, après avoir parlé de lui à la première personne, il parle de celui ou de celle qui entre en relation avec lui. Il ne dit pas seulement qu'il est la lumière du monde, il ajoute immédiatement que celui qui le suit n'avancera pas dans les ténèbres et qu'il aura la lumière de la vie. Celui qui parle, alors, n'est pas un maître qui endoctrine ou qui voudrait tenir un discours séducteur. C'est un ami, c'est un compagnon qui propose. Il ne force ni n'oblige. Il s'agit bien d'une promesse et d'une invitation. La lumière du monde, cette affirmation, après tout, elle concerne moins Jésus que celui qui l'entend. Si personne ne voit la lumière brille pour rien. Du coup, on pourrait comprendre la parole de Jésus de la sorte. Si je suis la lumière du monde, c'est pour que celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. En se présentant comme la lumière du monde, Jésus se présente comme un être pour le monde. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour la lumière. C'est la lumière qui est faite pour l'homme, tant il est vrai que sans lumière, on est bien incapable de faire quoi que ce soit. Oui, je suis la lumière du monde n'est pas tant l'affirmation solennelle d'une seigneurie devant laquelle l'homme devrait s'incliner que la revendication par le Christ d'un statut de serviteur, d'un être pour le monde, pour l'humanité. D'où il ressort que, face à cette proposition, il revient à celui qui l'entend de se situer en toute liberté et en pleine raison. Et c'est ce qui fait l'intérêt de ce chapitre de la guérison de l'aveugle-né. Oui, il nous présente une guérison accomplie par l'homme de Nazareth lors de son troisième séjour à Jérusalem à l'occasion de la fête des Tentes. Vous aurez sans doute remarqué que la description de la guérison elle-même occupe une place très restreinte dans ce récit. Voilà, deux versets, tout est dit. Jésus crache par terre, fabrique un emplâtre, l'applique sur les yeux de l'aveugle avant d'inviter celui-ci à aller se laver dans la piscine de Siloé. Ce qui remplit le reste du chapitre, c'est la controverse qui suit l'événement et la manière dont chacun des personnages va se situer par rapport au guérisseur. On éprouve même un sentiment de disproportion entre le fait lui-même et les interprétations qu'il peut susciter. C'est la controverse qui tient toute la place, car bien sûr l'action de Jésus, elle suscite des réactions qui prennent très vite des allures de procédure. Ce chapitre est en quelque sorte la chronique d'un procès. Alors je crois qu'il importe de bien repérer les différents intervenants, les différents acteurs de ce procès, car ils ont sans doute des choses à nous enseigner. Dans ce procès, on voit tout d'abord apparaître la foule, celles et ceux qui, sous la plume de l'auteur, sont désignés d'une drôle de manière, les gens du voisinage et ceux qui, auparavant, avaient l'habitude de le voir. Il y a de l'ironie dans ce propos johannique. Qui sont-ils, ces gens dont on nous dit qu'ils ont l'habitude de voir et qui, ce jour-là, n'y verront que du feu? Je crois qu'ils représentent finalement tous ceux qui s'en tiennent à ce qu'ils voient, qui constatent et qui profitent. C'est la foule des êtres sans qualité, de ceux qui s'en tiennent aux faits divers, surtout lorsqu'ils sont croustillants. La curiosité, c'est la motivation de ces gens-là, comme de ceux qui, le jour de la multiplication des pains, cherchaient à voir Jésus. Ils avaient mangé à satiété et cela leur suffisait. Tout comme suffit la guérison de l'aveugle. Jésus apparaît comme un faiseur de prodiges et ça vaut peut-être la peine de faire le détour. Les questions de ces gens-là, vous les avez entendues, elles portent sur le pourquoi et le comment de la guérison. Jésus est pour eux un technicien, un réparateur. Mais rien sur sa personnalité, rien sur sa parole, tout au plus un « où est-il celui-là ?» Non, ces gens-là, ils ne placeront pas leur confiance en Jésus, tout simplement parce que la guérison de l'aveugle n'a pas réussi à susciter en eux la question de la foi, la question de la relation avec Jésus. Oui, ils ne croient que ce qu'ils voient, et ce qu'ils voient les ramène à leurs petits intérêts et à leurs petites curiosités. Ils restent à la superficie des choses, ils incarnent l'indifférence. Mais qui peut se targuer de n'être jamais dans l'indifférence? Ce sont des âmes habituées. Je pense à Peggy, qui écrivait dans la note conjointe sur Descartes, « Sur une âme habituée, la grâce ne peut rien. Elle glisse sur elle comme l'eau sur un tissu huileux. » Car c'est vrai, on n'a jamais vu mouiller ce qui était verni, on n'a jamais vu traverser ce qui était imperméable, on n'a jamais vu tremper ce qui était habitué. Oui, des âmes habituées, indifférentes, fermé. Je repère encore aussi les parents. Eux aussi sont des témoins de cette guérison. Oh, ils en savent beaucoup plus qu'ils ne veulent bien en dire. Ils ont peur. Ils ne veulent pas avoir d'histoire avec les autorités. Ils ne veulent pas être exclus de la communauté à laquelle ils appartiennent. Ils sont dans le conformisme, ils jouent la comédie de l'ignorance. La prudence, pour ne pas dire la lâcheté, elle est aussi un obstacle à la foi. Elle est cette coutume dont Pascal disait qu'elle est une puissance trompeuse, une coutume, une puissance trompeuse qui empêche de se mettre en route et d'ouvrir les yeux. Il vaut mieux rester dans le consensus plutôt que de se prononcer en faveur de Jésus. Qui lui a ouvert les yeux ? Nous l'ignorons, nous ne voulons pas le savoir. Bienheureuse ignorance. Et on sait bien que dans la vie, il est parfois plus commode et moins dérangeant de fermer les yeux, de se taire, de ne rien voir, de ne rien dire, de ne rien entendre. Et puis, je vois aussi les pharisiens, les religieux, les tenants de l'orthodoxie. Ils occupent le devant de la scène dans ce récit. Ils ont le pouvoir, la science, la parole. Eux, ils sont dans l'obsession. Ce sont des obsédés. Ce sont des obsédés du péché. Ils voient le péché partout. Tout comme les disciples, d'ailleurs, qui se disent que si cet homme est aveugle, c'est que lui ou ses parents ont péché. Ce qui nous laisse à penser qu'entre les disciples et les religieux, la distance n'est pas si grande et qu'il y a quand même quelques parentés entre le fait d'être disciple et d'être religieux. En tout cas, pour ces religieux, c'est clair, c'est évident, l'aveugle est un pécheur. Il le lui jette d'ailleurs à la face. Tu viens nous faire la leçon alors que tu n'es que péché depuis ta naissance. Et Jésus aussi, pour eux, est un pécheur. Il a agi le jour du sabbat. Il n'est pas de Dieu. Et il martèle d'ailleurs cette anti-confession de foi à plusieurs reprises. C'est en vain que l'aveugle guéri les interpelle. À l'heure où les yeux de l'aveugle s'ouvrent, ceux des pharisiens se ferment. Ils sont tellement imbus de leur connaissance, de leur science, qu'ils sont incapables d'être touchés par le signe. Ils voient le péché partout, et la seule chose qu'ils ne voient pas, c'est leur propre péché, parce que bien sûr, ils projettent sur les autres ce qui les habite au plus intime d'eux-mêmes. Et Jésus a beau jeu de leur dire en conclusion, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites « Nous voyons » et votre péché demeure. » Ils ne voient pas, ces religieux, le péché qui est en eux, parce que le contraire du péché, c'est la foi, et que leur prise de position les révèle en vérité. La vérité, frères et sœurs, elle se trouve du côté de l'aveugle guéri. Et dans ce récit, l'évangéliste nous donne à voir le cheminement d'un croyant. Dans cette histoire qui commence par une guérison et qui s'achève par une belle confession de foi. Et voilà un homme qui aborde Jésus comme un guérisseur, qui accepte que Jésus le soigne, qui suit ses conseils d'aller se baigner à la fontaine de Siloé. Il a rencontré Jésus comme nous allons consulter un médecin qui va prescrire l'ordonnance. Après tout, la plupart du temps, nous avons bien raison de faire confiance à notre médecin. Le chemin de la foi, c'est que cet homme, il prend la parole. Il devient le sujet de son histoire. Il raconte ce qui s'est passé. Je parlerais, si j'étais philosophe, d'identité narrative. Il en vient à parler de celui qui l'a guéri et il s'interroge sur cet homme. La foi, c'est aussi cela, c'est s'interroger sur Jésus, sur cette relation qu'il nous propose. Et cet homme qui vient d'être illuminé, il passe par plusieurs étapes. Il parle d'abord de l'homme qu'on appelle Jésus, il lui reconnaît ensuite la qualité de prophète. Il ajoute que si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire avant de l'appeler Seigneur et de le reconnaître comme le Fils de l'homme. Oui, la foi, c'est ce cheminement par lequel on entre progressivement dans la compréhension de l'identité de Jésus au fil d'un dialogue avec lui. Le quatrième évangile, il nous initie à l'apprentissage de la foi. On passe des ténèbres à la lumière par un travail très lent, patient, de discernement et d'interprétation des signes qui nous sont donnés dans la vie. Cheminer dans la foi, c'est bien être capable de reconnaître ces signes, de les interpréter, bref, de donner du sens à ce que nous vivons à la lumière de l'Évangile. Je remarque encore que ce cheminement de l'aveugle guéri, il s'effectue dans le conflit. Oui, pour accéder à une foi entière, pleine, cet homme va devoir se confronter aux religieux. Oui, l'aveugle né, il est en proie à la contradiction. Si on ne l'avait pas interrogé, si on ne l'avait pas remis en cause, il en serait resté à une approche très vague de la personne de Jésus. Pressé de questions, injurié, bafoué, méprisé par les pharisiens, l'homme guéri ne recule pas, ne biaise pas. Il est conduit à se compromettre, à se mouiller pour Jésus. Et il refuse à transiger. Il est croyant, il devient témoin, alors que ses parents, qui, dans leur cœur, ont sans doute aussi la foi, se refusent à confesser publiquement Jésus, parce qu'ils ont peur. Peur d'être exclus, peur d'être persécutés à leur tour. Oui. Alors qu'à la fin du récit, leur fils accueille le Fils de l'homme avec le même empressement mis à accueillir la lumière du jour au sortir de la piscine de Siloé. Oui, il croit, il témoigne, par contraste avec ceux qui ne se posent jamais de questions, avec ceux qui se questionnent mais n'arrivent pas à croire, par contraste aussi avec ceux qui croient mais qui restent silencieux, tels des chiens muets. Oui, l'aveugle incarne le croyant. « Toi, tu es son disciple », lui disent avec arrogance et mépris les docteurs de la loi. Ils ne voient pas, les pauvres, à quel point ils disent vrai. Oui, l'aveugle né représente tous ses disciples à la démarche lente, mais à la sincérité entière qui se met en route pour ne plus jamais s'arrêter. Oui, l'aveugle guéri nous dit le récit, il est jeté dehors, exclu de la synagogue, mais en cet instant précis, il entre dans la joie de son maître, une joie que nul ne pourra lui ravir. Cet homme, il ne connaît pas les expressions religieuses traditionnelles susceptibles d'expliquer son salut. Il n'est pas particulièrement pieux, il n'est pas paralysé par le respect qu'attendent de lui les pharisiens, mais en face d'eux, affranchi des ténèbres qui le maintenaient prisonnier, il se tient debout en sujet libre et responsable de son existence. « Il y a une chose que je sais, dit-il, le détail insignifiant qu'il se trouve savoir, c'est l'identité de celui qui, lui ouvrant les yeux, lui a sauvé la vie. » Frères et sœurs, Jésus déclare « Je suis venu dans le monde afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Oui, Jésus parle ainsi dans un récit que je n'hésiterai pas à qualifier de mythologique. Les mythes, en nous racontant une histoire, sont porteurs d'une leçon que la seule spéculation ne peut expliciter. Il y a incontestablement une mythologie chrétienne comme il y a une mythologie grecque. Vous connaissez sans doute le mythe d'Icare. Afin de lui donner la possibilité de s'évader du labyrinthe, son père fournit à Icare des ailes, et celui-ci les fixe à ses bras avec de la cire. Et puis il prend son envol. Mais attiré par l'éclat du soleil resplendissant, il oublie, il transgresse les conseils de son père qu'il avait mis bien en garde contre le risque de s'approcher de la lumière. Ébloui, aveuglé par le soleil, vous le savez, Icare se brûle les ailes et périt dans sa chute. Oui, séduit par les délices d'un rayonnement éclatant, le héros meurt d'avoir voulu voir ce qu'on ne peut pas voir. Faut-il parler d'orgueil, de démesure, de désir d'absolu, que sais-je ? La mythologie biblique, au livre de l'Exode, va dans le même sens. L'Éternel dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et le prologue de l'Évangile de Jean affirme à son tour que personne n'a jamais vu Dieu. Oui, toute tentative humaine de voir la lumière divine est illusoire. Créature limitée, mortelle, l'homme est incapable de comprendre l'infini. Et qui prétend voir Dieu ne voit en réalité que le reflet de sa propre imagination religieuse ou la projection de sa propre nature idéalisée. Les religieux du récit que nous avons entendu en sont l'exemple parfait. Les mythologies, chrétiennes ou païennes, finalement, nous livrent ainsi une leçon. Il n'est pas bon pour l'homme de prétendre s'approcher du divin. Et à cette tragédie grecque répond un autre mythe, celui de l'Évangile de Jean, qui célèbre la venue en ce monde d'un verbe, d'une parole, d'un logos qui s'est fait chair, d'une raison qui s'est incarnée. S'il est impossible à un humain de s'approcher des dieux sans être anéanti, un fils de Dieu peut cependant les rejoindre au risque d'être incompris et rejeté par ceux-là même qu'il a reçu mission d'illuminer et d'engendrer à une vie nouvelle. Oui, les hommes ne parvenant pas à s'élever jusqu'à Dieu, Dieu s'abaisserait à leur niveau pour leur apporter une lumière adaptée à leur faiblesse en la personne de Jésus. Ce mythe chrétien, car il s'agit bien d'une mythologie, cette descente d'un être divin qui s'incarnerait, ce mythe est néanmoins porteur d'une vérité. Pour vivre et s'orienter, nous avons besoin d'une lumière mesurée, ni trop faible, ni trop intense, une lumière adaptée à sa condition de faiblesse, une lumière adaptée à notre raison. Et l'Évangile, alors, nous livre une bonne nouvelle dans ce chapitre de l'Évangile de Jean. Loin des dieux, nous ne sommes pas, en effet, condamnés à vivre dans l'obscurité. La lumière, elle, ne symbolise pas seulement notre fascinante et illusoire quête de l'absolu, cette quête du divin. Elle illustre aussi la beauté de la vie, la douceur du regard, la sérénité et la clairvoyance d'un esprit paisible. Elle illustre aussi le calme de la raison. C'est bien la raison qui nous met en garde contre le risque de considérer Jésus, ce Fils de Dieu, comme un astre brillant, au point de nous en approcher comme Icare s'est approché du soleil. C'est là, je crois, le piège de tous les fondamentalismes qui prétendent enfermer Jésus dans des définitions et des rites qui en font un être divin. En revanche, frères et sœurs, alors qu'Icare s'égare dans des rêves de toute puissance, le Fils de l'homme, l'homme Jésus, éclaire notre fragilité d'êtres humains. Il nous ouvre les yeux sur le monde et il nous offre la possibilité d'une vie réconciliée. Oui, la discrète lumière évangélique que Jésus personnalise, elle nous délivre de la quête de grandeur et de puissance illusoire. Cette lumière discrète, elle nous invite à accueillir la beauté du monde et la douceur des choses. Cette beauté, cette douceur, cette raison, frères et sœurs, elles resplendissent sur le visage de Jésus. C'est d'ailleurs ce que déclare le prologue de l'Évangile de Jean. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oui, frères et sœurs, c'est vrai. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Amen.